France Inter. .fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, une nouvelle étude à charge contre les jeux vidéo violents.
On y va ! Déployez vos lignes !
Bienvenue à la fête, bravo !
L'opérateur de tourelle Zulu est mort. Je répète, Zulu est mort.
Voilà, extrait du jeu Call of Duty, par exemple. Les jeux vidéo violents augmentent-ils le niveau de stress ? Laurent Beg, bonjour. Allô, Laurent Beg.
Allô, oui.
Oui, bonjour, vous êtes en ligne avec nous depuis Grenoble. Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'Université Pierre Mendès France. Et c'est vous qui signez cette étude parue la semaine dernière et qui commence à faire pas mal de bruit sur le web. Elle est intitulée « Les jeux vidéo violents augmentent le niveau de stress émotionnel ». Et pour en parler et commenter cette étude, nous sommes également toujours par téléphone avec vous. Michael Stora, bonjour. Vous êtes psychologue, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Laurent Beg, d'abord, la méthodologie. Vous avez utilisé un procédé assez original pour cette étude, puisque vous avez utilisé une machine qui ressemble étrangement à un détecteur de mensonges. Expliquez-nous.
Oui, alors c'est un appareil qui mesure le stress vocal. Effectivement, c'est un dispositif expérimental qui, à partir d'échantillons de phonèmes, va calculer la présence de stress dans la voix, qui est induite par des tremblements de muscles du larynx. Mm-hmm. Et donc c'est une méthode qui est en développement. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a des recherches qui établissent le lien entre la pratique de jeux vidéo contenu violent et le stress. Il y a des recherches qui se basent par exemple sur l'activité cardiaque, sur la pression sanguine, sur l'éveil physiologique. Nous avons d'ailleurs contribué à une des études sur l'activité cardiaque. Là, nous souhaitions finalement utiliser une nouvelle méthode, bon, qui est encore en développement, encore une fois, qui ne pourrait pas être utilisée, par exemple, pour détecter les mensonges, mais simplement pour évaluer s'il y a des variations de niveau de stress dans la voix de quelqu'un consécutivement à une pratique immersive dans laquelle on est amené effectivement à devoir éviter d'être abattu dans un environnement qui évidemment est très immersif, donc et potentiellement stressant. Et donc nous observons qu'après une séquence de 20 minutes à jouer à des jeux vidéo comme Call of Duty, par exemple, comme le club, des joueurs ont un niveau de stress vocal supérieur à des joueurs qui jouaient à des jeux d'action tout aussi excitants, immersifs, mais qui ne comportent pas de contenu violent.
Alors, vous avez testé ce procédé sur 87 joueurs, donc ça, c'était vraiment pour le protocole. Et comment est-ce que vous avez analysé justement le stress vocal, précisément ?
Alors, il s'agit en fait de se baser sur des séquences donc, qui sont échantillonnées à partir des phonèmes donc, de la voix des participants. Et ensuite, on va donc comparer en fait le niveau de fréquence vocale des joueurs en fonction de leur condition expérimentale pour établir si le niveau de variation et donc d'indice de stress est plus important dans tel ou tel groupe. Donc ce qui va ressortir, c'est qu'effectivement on a un niveau de stress qui va être mesuré par des fréquences hertziennes qui est plus élevé dans le groupe ayant pratiqué des jeux violents.
Mais vous avez demandé aux personnes qui se sont prêtées donc à ces étudiants à cette expérience de lire un texte particulier, je crois.
Oui, alors c'est un texte standard qui effectivement a pour fonction d'élever le niveau de stress dès le départ, puisqu'effectivement c'est un texte qui parle d'un génocide, donc c'est une histoire qui est elle-même chargée émotionnellement, qui donc induit déjà un niveau d'éveil important, et ensuite on va essayer de voir si cet éveil est potentialisé, élevé davantage encore par la pratique d'un jeu donc vidéo violent.
Donc
les textes étaient les mêmes dans les deux cas.
Pour vous, la conclusion donc, ce sont que les signatures de stress et d'agressivité sont plus nombreuses chez les personnes qui ont joué aux jeux de guerre. Alors, un mot avec vous, Michael Stora. Vous avez lu cette étude de Laurent Beg. Comment avez-vous réagi ? Quelle est votre analyse ?
Alors, on va dire d'abord, au fond, moi, je remets en cause, d'une manière générale, la plupart des protocoles de recherche mettant en scène des humains dans des situations de laboratoire. Nous sommes beaucoup à penser qu'il y a tellement de biais. Il s'avère même que dans certaines expériences avec les rats, on se rend compte qu'eux-mêmes ont des émotions et que leurs émotions changent selon les jours même. De plus, moi, ce qui me pose toujours question, c'est qu'est-ce qu'on appelle un jeu vidéo à contenu violent. les trois jeux qui sont utilisés, donc Condemned 2, The Club et Call of Duty, sont très différents aussi bien dans leur ergonomie, et de plus parce que, par exemple, dans Condemned, vous incarnez une sorte de flic quasiment psychotique. Dans The Club, vous êtes des psychopathes. Et dans Call of Duty, vous êtes un soldat, on va dire, qui n'a pas vraiment d'âme, à part le fait qu'il est dans des stratégies guerrières. De plus, on ne sait pas est-ce que ces jeunes qui jouent avaient déjà une capacité à bien jouer, parce que le niveau de stress est très élevé quand, en général, vous commencez un jeu et que vous n'y arrivez pas, parce que vous n'avez pas de contrôle. Et en plus, on sait très bien que les jeux vidéo, en effet, proposent des sentiments d'immersion assez puissants et qui font que votre attention est tellement focalisée qu'évidemment, le but étant d'avancer dans le jeu et de gagner, et que ça donne un certain niveau de stress qui d'ailleurs est paradoxalement utilisé, comme vous le savez peut-être, pour des enfants hyperactifs qui en général ont un gros souci pour focaliser leur attention et qui dans les jeux vidéo ont une grande capacité de focalisation de l'attention. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, M. Begg avait déjà lui-même fait un travail de protocole de recherche qui était, au fond, les jeux vidéo violents ont tendance à rendre assez méchants et agressifs. Là, on a un autre niveau, c'est-à-dire d'élever le niveau de stress. Ce qu'on peut remarquer en général, c'est que le niveau de stress est très élevé, surtout lorsqu'on perd. Bon, c'est assez humain, c'est totalement banal. Donc c'est vrai que je trouve ça intéressant que des chercheurs, surtout français, s'intéressent à l'idée d'évaluer les jeux vidéo. En général, c'est vrai que c'est plutôt à charge, ce qui est bien dommage parce que mon utilisation, comme peut-être vous le savez, d'utiliser les jeux vidéo violents, en tout cas des jeux vidéo auprès d'adolescents qui eux-mêmes ont des troubles du comportement violent, m'a montré au contraire qu'il y a un effet cathartique tout à fait intéressant.
Donc vous l'utilisez dans le cadre de thérapie, hein, Michael Stora.
Tout à fait.
Axel.
Et justement, dans l'actualité des publications, on trouve des publications qui vont dans l'autre sens et qui disent que les jeux vidéo, même violents, pourraient avoir un effet déstressant. Comment vous vous placez, Laurent Begg, par rapport à ces publications-là ?
Écoutez, ces publications sont finalement minoritaires, en fait, par rapport à une méta-analyse qui a été publiée sur le sujet dans un papier de Craig Anderson, qui effectivement compile 130 études, 130 000 personnes, et met en évidence que la pratique de jeux vidéo violents élève l'éveil physiologique. Donc je dirais, il y a toujours en fait dans tous les domaines de la science des recherches qui se contredisent. La seule manière de trancher, c'est évidemment de cumuler des recherches issues de laboratoires indépendants et d'établir les grandes tendances. Alors c'est pas évidemment la parole de Dieu, hein, c'est simplement des tendances scientifiques à un moment donné, mais il est raisonnable d'y adhérer, puisqu'effectivement on n'a pas d'autre moyen de le savoir. Alors les vertus cathartiques que M. Stora, je dirais, attribue au jeu, peut-être qu'il observe dans son laboratoire ou dans son cadre, je dirais, thérapeutique, mais la plupart des chercheurs, en tout cas, considèrent que cette hypothèse est totalement erronée. Mais bon, la psychanalyse, effectivement, est habituée à ce type d'hypothèse.
Ouais, Michael Stora, on voit à quel point cette question divise toujours. C'est incroyable, hein. La question des jeux vidéo, ça fait des années qu'on en parle, et les conclusions sont toujours très commentées, réfutées par les uns ou par les autres. On n'arrive pas, finalement, à savoir réellement ce qu'engendrent ces jeux sur les personnes qui sont aux commandes.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a sûrement une problématique générationnelle. Au fond, même si le jeu vidéo existe depuis plus de 25 ans maintenant, ça reste quand même un objet un peu inquiétant parce qu'il est nouveau, parce que on a quand même beaucoup de parents inquiets encore et toujours. Et c'est évident que, au fond, on prend pas toujours le temps de réfléchir dans le contexte dans lequel on joue. Au fond, à quel moment de sa vie on va jouer. Et c'est vrai que je pense que les approches qualitatives, qui d'ailleurs aux États-Unis ont de plus en plus de succès, c'est-à-dire qu'on va suivre un individu sur plusieurs mois, voire plusieurs années, prendre en compte sa réalité historique, sa réalité socio-culturelle, va nous donner des indices de compréhension à quel moment on joue. Et je pense que c'est peut-être cette tendance là, et j'ai toujours un peu peur des protocoles qui finalement réduisent l'être humain dans une situation de laboratoire sans prendre en compte ce qu'il est, à quel moment il va passer cet examen, etc. Voilà, ce sont des questions, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet.
Et Laurent Begg, est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne utilisation des jeux violents ?
Écoutez, d'abord, bon, effectivement, il s'agit d'inscrire la pratique des jeux dans l'histoire des participants. C'est-à-dire que personne ne considère que la pratique occasionnelle d'un jeu vidéo à contenu violent va transformer quelqu'un en personne très agressive. Les travaux de recherche suggèrent simplement que la pratique cumulative et répétée de jeux violents, et c'est pas moi qui l'affirme, hein, je veux dire l'Association américaine de médecine, de psychiatrie, enfin on a maintenant un certain nombre d'académies qui finalement convergent dans ce sens. Donc bien sûr, on peut se poser, avoir une parole originale comme l'a M. Stora, mais encore une fois, la question est plutôt quelles sont les conclusions de recherches empiriques. Alors, sur le terrain, par exemple, lorsqu'on fait jouer des jeunes enfants et qu'ensuite on les regarde en cours de récréation, par rapport à des jeunes enfants qui jouent à des jeux d'action, simplement, on observe des comportements différents. Ce n'est pas simplement le cadre stérile du laboratoire. Les enquêtes longitudinales qui consistent à suivre des personnes plusieurs années en mesurant les relations entre des pratiques ludiques en temps 1 et les comportements en temps 2, en maintenant constante, je dirais, les pratiques, l'agressivité en temps 1, montrent bien aussi qu'il y a une corrélation entre la pratique du jeu à contenu violent et l'agression. Donc je crois qu'il y a des données convergentes. Par ailleurs, les travaux montrent également que la pratique de jeux vidéo à contenu coopératif et prosociaux développent des effets inverses. Donc je dirais que tout va dépendre du contenu dans lequel les personnes s'immergent.
Bon, bah en tout cas, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord, mais c'est intéressant de pouvoir avoir un éclairage original de part et d'autre à la suite de cette publication donc sur les jeux vidéo violents qui augmenteraient, en tout cas pour vous, Laurent Bègue, le niveau de stress émotionnel. Merci à tous les deux. Merci Michael Stora également.
Merci.
Bonne journée. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, flûte alors, pas de rockstar chez les Néandertaliens, une flûte découverte il y a 20 ans en Slovénie et considérée jusque-là comme le plus vieil instrument de l'histoire, 43 000 ans d'ancienneté, ne serait en fait qu'un vulgaire fémur d'ours. Les perforations circulaires qui ont trompé les chercheurs seraient le fruit des morsures d'une hyène. Le plus vieil instrument de musique connu aurait donc 3 000 ans de moins 40 000 ans. Il s'agit d'une flûte, là aussi, découverte dans le sud de l'Allemagne et appartenant à Homo sapiens. Des algues en guise de route, c'est le pari de chercheurs nantais et orléanais du CNRS qui ont mis au point un biobitume en valorisant des résidus de microalgues. Le produit en cours de test présente des propriétés similaires au bitume classique, mais permet de ne plus dépendre du pétrole ou des huiles agricoles. Un parfum anti-sueur, le beau temps arrive, et avec lui les auréoles glamour sous les aisselles. Et bien heureusement, des chercheurs irlandais ont mis au point un parfum qui libère une quantité d'arômes proportionnelle à l'humidité de la zone d'application. Le produit évite aussi le mélange des odeurs de sueur et de parfum grâce à un liquide ionique qui attire le thiol, le composé organique responsable des effluves, les rendant aussi presque inodores. Mais attention, lever les bras restera toujours aussi voyant. Et puis un chiffre pour terminer, celui des dons du Téléthon en 2014. 92 millions d'euros ont en effet été collectés en décembre dernier pour aider la recherche médicale contre les maladies génétiques neuromusculaires, dont 19 millions sur Internet. C'est un record.